Le groupe féministe radical, les Femen, organise aujourd'hui, dans des locaux désaffectés qu'elles occupent illégalement à Clichy, une fête de Pâques un peu spéciale, annoncée en ces termes. Je cite « Messe sataniste, bûcher de merguez, coup de fouet, débat infernaux, musique païenne et blasphème à tous les étages. Deux points. Le 20 avril, gagnez votre ticket pour l'enfer en pénétrant dans l'antre des sorcières. » C'est raffiné. Et un peu plus loin, en conclusion du message, « Gloire à Satan, Femen Akbar, entrée libre. » En fait, les Femen ont compris quelque chose, peut-être sous l'inspiration du diable, quelque chose que beaucoup de chrétiens, en fait, peinent à comprendre. C'est que Pâques, c'est en effet la fête la plus importante qui soit dans le calendrier. Si je dis que beaucoup de chrétiens peinent à le comprendre, c'est parce qu'en France, et ça j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, en France, environ 4 personnes sur 5 qui se disent chrétiennes ne croient pas que Jésus soit réellement ressuscité des morts. Donc la fête de Pâques, pour ces gens-là, a une importance toute relative. Et ces gens-là, en grande partie, diraient pourtant qu'elles ont la foi. Elles vont à l'église de temps à autre et pas sous la contrainte, hein. Elles y vont parce qu'elles y trouvent quelque chose qui leur fait du bien. Mais quelle est la nature et la fonction de cette foi chrétienne, entre guillemets, qu'elles disent avoir, ces personnes-là? C'est une foi qui semble être pour elles une simple commodité, en fait, quand on y réfléchit. Une aide pour les moments difficiles, un plus, une chouette tradition, une culture peut-être, un glaçage qui décore le gâteau mais qui pénètre pas au cœur du gâteau. Et je vous assure que ce ne sont pas ces gens-là qui inquiètent le diable, ni les Femen. Mais ce soir, c'est à vous, hein, et à moi que la question est posée. Que représente la foi chrétienne pour vous? Finalement, à quoi ça sert? C'est quoi la foi chrétienne pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente pour votre vie? Une aide? Une béquille? Un plus? Une chouette tradition? Et franchement, pourquoi est-ce que vous fêtez Pâques? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la fête de Pâques? Et bien la leçon du texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est que puisque Jésus est réellement ressuscité, alors la foi chrétienne, pour le croyant, n'est pas une simple commodité. Elle est toute sa vie. Puisque Jésus est réellement ressuscité, la foi chrétienne, pour le croyant, ne peut pas être une simple commodité. Elle est forcément, par nécessité, toute sa vie. Le texte qu'on va lire s'inscrit dans un passage où Paul est en train de défendre la doctrine de la résurrection corporelle, véritable, du Seigneur Jésus face à des gens qui en doutent. Et on ne va pas lire tout le passage, surtout qu'il y a certains moments dans le passage qui sont un peu controversés, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Mais en tout cas, l'extrait qu'on va lire va vous montrer que pour Paul, puisque Jésus est réellement ressuscité, la foi chrétienne ne peut pas être juste une commodité, juste un glaçage sur le gâteau. Mais la foi chrétienne pour le croyant, c'est le gâteau. C'est toute la vie. Et est-ce que c'est toute votre vie ce soir? Le texte nous explique, vous allez le voir, pourquoi la foi chrétienne devrait être toute notre vie. Parce que, en vertu de la résurrection de Jésus, si nous sommes attachés à lui par la foi, alors Dieu, premièrement, règle notre problème fondamental. Ensuite, deuxièmement, il restaure notre condition d'origine. Et troisièmement, il rétablit notre utilité éternelle. C'est donc un salut complet et c'est ça qu'on va voir. Ce soir, c'est comme quand on prend son abonnement internet chez Free. Quand on a Jésus, on a tout compris. D'accord? Vous connaissez le slogan. Et il est bien sûr indispensable en tant que croyant que nous en soyons profondément convaincus. Alors on lit le texte, il s'agit d'un Corinthiens chapitre 15, la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 17 jusqu'à 28. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. On va s'arrêter là pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Merci beaucoup Seigneur pour ta parole. Nous reconnaissons qu'elle est inspirée de toi, elle est infaillible. Et alors Seigneur, aide-nous par ton esprit maintenant à comprendre ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous communiquer. Et surtout Seigneur, par la puissance de ton esprit, applique ces choses à notre vie, pour ta gloire. Amen. Alors, la foi chrétienne n'est pas, pour le croyant, une simple commodité, c'est impossible. Elle est toute la vie du croyant, et cela parce que Jésus est ressuscité. D'abord, je le disais tout à l'heure, nous le savons d'après ce texte, parce qu'en Jésus, Dieu règle notre problème fondamental. Et quel est-il, ce problème fondamental ? Eh bien, il nous accorde le pardon de nos péchés. Voilà le problème fondamental de l'homme. Il a besoin d'être pardonné de ses péchés. C'est ce que Paul dit dans les versets 17 à 19. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ça voudrait dire que Dieu n'aurait pas résolu notre problème fondamental qui est celui de notre péché, de nos péchés, de notre culpabilité aux yeux de Dieu. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors Paul est en train de dire notre foi, effectivement, elle n'est qu'une commodité. Et en fin de compte, elle est vaine. Ça veut dire que nous sommes dans nos péchés, nous sommes perdus, nous sommes, dit-il, les plus malheureux des hommes ou les plus à plaindre de tous les hommes. Vous savez, la foi chrétienne, quand on y pense, c'est certainement utile pour régler certains problèmes, certains désagréments de la vie, pour faire face à certains aléas dans la vie. Effectivement, la foi chrétienne, ça peut servir d'une béquille. Ça peut être un plus, ça peut être une aide. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit avant tout. La foi chrétienne repose avant tout sur la nécessité des hommes d'être absous de leurs péchés, d'être pardonnés de leurs péchés, délivrés de leurs péchés, pour pouvoir se tenir devant un Dieu juste et saint. Et donc, si ce soir, votre foi chrétienne consiste au départ en quelque chose d'autre qu'à croire en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, alors votre foi ne sert pas à grand-chose. Si au départ il ne s'agit pas du pardon de vos péchés, alors votre foi ne sert pas à grand-chose en effet. Pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, elle est vaine en fin de compte et elle ne mérite probablement même pas d'être appelée chrétienne cette foi. Si vous espérez en Jésus pour les choses de cette vie seulement, comme par exemple pour la guérison d'une maladie, ou pour le bien-être émotionnel ou psychologique, si vous espérez en Jésus pour une expérience mystique, ou pour la prospérité matérielle, vous espérez qu'il va vous enrichir, si vous espérez en Jésus tout simplement pour vous sentir mieux dans votre conscience, pour l'exorcisation en quelque sorte de votre sentiment de culpabilité, bonjour Freud qui est introduit ici dans la prédication, laissez-moi vous dire quelque chose, si vous espérez en Jésus pour des bienfaits qui concernent cette vie seulement, laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour obtenir ces choses. Vous savez, on peut très bien être musulman et riche. On peut très bien être bouddhiste et bien dans sa peau, épanoui dans sa vie. On peut très bien être athée et guérir miraculeusement d'une maladie. Si, si, c'est possible. Mais ni l'islam, ni le bouddhisme, ni l'athéisme, ni aucune autre religion ou philosophie dans le monde ne peut vous offrir la pleine et entière rémission de vos péchés comme elle nous est offerte en Jésus-Christ. Car seul Jésus-Christ s'est offert en parfait sacrifice pour expier nos péchés une fois pour toutes, c'est-à-dire pour payer une fois pour toutes la dette que nous devions à Dieu et qui nous était imposée par la justice morale parfaite de Dieu. Seul Jésus-Christ a offert ce sacrifice, mais en plus, seul Jésus-Christ est ressuscité des morts ensuite pour garantir de façon manifeste, de façon éclatante, eh bien notre libération, notre délivrance des conséquences dans lesquelles nos péchés nous ont entraînés. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs qu'auprès de Jésus. C'est clair ? Il existe aujourd'hui toute une branche du christianisme qui a été influencée par le modernisme. Quand je parle du christianisme, je parle de toutes les branches du christianisme confondues, hein. Les protestants, les catholiques, les orthodoxes. Et cette branche du christianisme qui a été influencée par le modernisme met en doute la résurrection physique de Jésus. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que tout le monde sait qu'un mort, ça ne ressuscite pas. Quand on meurt, on est mort, on ne revient pas à la vie après. Et les adeptes de ce genre de rationalisme mettent en avant l'idée que l'expérience qu'ont faite les disciples quand ils ont vu Jésus, quand ils ont touché Jésus, quand ils ont dialogué avec Jésus après sa résurrection prétendue, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, cette expérience était une expérience purement mystique, un peu comme une illusion ou une expérience qu'on fait dans un rêve. Mais ça ne s'est pas passé réellement, concrètement, corporellement. Voilà ce qu'ils disent. Jésus se serait manifesté à eux, dans des visions. Mais l'apôtre Paul, saint Paul, dit ici dans ce texte de façon explicite que si cette idée était vraie, ça voudrait dire que nous sommes encore dans nos péchés. Ça voudrait dire que Dieu n'aurait pas résolu notre problème fondamental qui est celui de notre culpabilité à ses yeux. Autrement dit, si Jésus est réellement mort sur la croix, historiquement, et admettons même qu'il soit mort sur la croix historiquement pour expier nos péchés, mais qu'il n'est pas réellement sorti vivant du tombeau le troisième jour. Ça voudrait dire que notre foi en lui ne servirait à rien sinon à nous rendre encore plus malheureux. Pourquoi ? Ben imaginez que vous ayez une dette d'1 million d'euros envers votre banque et comme il vous est impossible de rembourser, on vous met en prison. Seulement voilà que quelqu'un de très riche et qui vous aime beaucoup prend contact avec la partie civile, avec la partie plaignante et rembourse intégralement votre dette. Vous voilà acquitté, vous ne devez plus un centime, votre dette est réglée. Mais à quoi cela servirait-il si aucun ordre concernant votre libération n'était donné aux autorités pénitentiaires ? Au lieu d'être un coupable derrière les barreaux, vous seriez un innocent derrière les barreaux. Vous seriez moins malheureux ou plus malheureux ? Et de la même façon, Paul dit que si Jésus est mort pour nos péchés, mais qu'il n'est pas réellement ressuscité ensuite, ça aurait beau nous permettre quelque part théoriquement d'être pardonné de nos péchés ici-bas, mais ça ne nous libérerait pas pour autant de la prison, de la geôle dans laquelle nos péchés nous ont placés, à savoir le caractère éphémère de notre vie, notre mortalité. On va quand même mourir un jour, et ça, c'est la conséquence directe de nos péchés. Alors on serait moins malheureux ou plus malheureux ? Plus malheureux, on serait encore plus désespéré en tant que chrétien. Nous voilà, au lieu d'être des coupables en prison, on est des innocents en prison. Voilà pourquoi Paul dit on serait les plus malheureux des hommes. Et ça nous amène au deuxième point. La foi chrétienne, c'est donc pas une commodité pour le croyant, c'est toute sa vie. Parce qu'en Jésus, non seulement Dieu règle notre problème fondamental, qui est celui de notre péché, mais en plus, il restaure notre condition d'origine. En effet, par la résurrection de Jésus, Dieu a garanti notre future résurrection. Il faut savoir que dans la vision biblique du monde, la mort des hommes est une anomalie. C'est une anomalie. Nous ne sommes pas faits pour mourir à la base, à l'origine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est si douloureux de perdre un proche. Et même les gens qui ne croient pas qu'il y ait quoi que ce soit après la mort, même les gens qui n'ont qu'une vision purement matérialiste du monde, ça leur fait quand même mal de perdre un proche. Pourtant, ils devraient l'accepter, puisque c'est comme ça que vont les choses. C'est la nature, c'est normal. Non, ils n'acceptent pas, même eux. Ça leur fait mal. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas fait pour ça. C'est une anomalie de mourir Paul le dit clairement dans ce passage, la mort est entrée dans le monde par un homme, il fait référence à Adam, le premier homme, à cause de sa désobéissance, à cause de son péché. Quand Dieu a créé Adam, le but n'était pas qu'Adam meure, mais le but était qu'Adam vive. Mais en choisissant de vivre indépendamment de Dieu, en tournant le dos à Dieu, et en choisissant l'autonomie, Adam s'est coupé lui-même de la source de la vie. Et avec ce premier homme, avec Adam, toute l'humanité est déchue à sa suite. Ce jour-là, l'humanité, le genre humain, est devenu mortel, en quelque sorte. Le livre de la Genèse raconte que Dieu a renvoyé nos premiers parents, Adam et Ève, du jardin d'Éden où il les avait placés, et il a bloqué l'accès à l'arbre de vie, nous dit le texte, afin que nous ne vivions pas éternellement. Et si on ne vit pas éternellement, qu'est-ce qui se passe ? Ben on meurt. C'est logique. C'est pourquoi le jour où vous êtes né, c'est aussi le jour où vous avez signé votre arrêt de mort. C'est le jour où vous avez commencé à mourir. Mais voici ce que dit Paul dans ce passage. C'est que de la même façon qu'Adam a représenté toute l'humanité quand il a désobéi et quand il a, par conséquent, été condamné à la mort, de même, il y a eu un autre homme, Jésus, qui, lui, a représenté tous les croyants, tous ceux qui se confient en lui, quand lui, à son tour, et à l'inverse d'Adam, lui a obéi à Dieu. Il a parfaitement obéi à Dieu. Et donc, en raison de son obéissance parfaite, Dieu l'a justifié en le ressuscitant des morts. Il était impossible que les liens de la mort le retiennent, qu'il soit retenu par la mort. Dieu l'a justifié par sa résurrection, mais ce second Adam, ce second homme, par cette trajectoire de sa vie, son obéissance, sa mort et sa résurrection, a entraîné avec lui, en quelque sorte, parce qu'il les représentait, tous les croyants, tous ceux qui placent leur confiance en lui. Vous voyez qu'en envoyant Jésus, Dieu a donc inversé les effets de la chute d'Adam au profit de tous ceux qui, bien qu'étant unis à Adam par leur naissance dans ce monde, sont unis à Jésus par leur foi en lui. Au cas où vous vous poseriez la question, au cas où ce ne serait pas très clair, sachez que vous êtes unis à Adam si vous êtes un être humain. Mais sachez aussi que vous êtes unis à Jésus si vous avez placé votre confiance en lui. Et si vous êtes unis à Jésus, alors vous êtes destinés, selon la Bible, à manger de l'arbre de vie. À manger de nouveau de l'arbre de vie dont l'accès avait été fermé, bloqué pour Adam et sa descendance. Mais la Bible est claire, après le jugement, ceux qui sont trouvés en Christ pourront de nouveau manger de l'arbre de vie et vivre ainsi éternellement. Donc vous voyez, Paul, dans ce passage, il n'est pas en train de dire que la résurrection des morts, c'est quelque chose qui va de soi. Effectivement, quand on prononce avec le credo ou le symbole des apôtres, quand on dit qu'on croit à la résurrection des morts, on passe pour des gens un peu dérangés aux yeux du monde aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je crois à la résurrection des morts, mais n'importe quoi. Donc tout le monde sait que les morts ne ressuscitent pas. Pourtant, les chrétiens le confessent, le professent depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires maintenant. Mais c'est vrai que ça ne va pas de soi. Mais ce que Paul dit, c'est que nous pouvons être certains pourtant de cette chose extraordinaire que les morts vont ressusciter, parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire. Et cet événement extraordinaire, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, événement extraordinaire qui nous atteste la réalité future, extraordinaire elle aussi, de notre future résurrection. Si vous vous promeniez dans les monts du Lyonnais, du côté de chez nous, en ce moment, vous pourriez voir des tas de terrains agricoles sans rien qui pousse dessus. Tout ce que vous verriez si vous vous promeniez vers chez nous en ce moment, ce serait de la terre labourée, des flaques de boue et pas le moindre signe de verdure. Et vous serez impossible de savoir ni ce qui est censé y pousser, ni même si quelque chose est censé y pousser. Impossible de savoir. Mais revenez dans quelques mois, au début de l'été. Et là, vous verriez poindre les premières tiges de maïs. Et en voyant poindre les toutes premières tiges de maïs, alors vous sauriez, sans l'ombre d'un doute, que quelques semaines plus tard, il y aurait une formidable et abondante moisson. Et de la même façon, Paul dit dans ce texte que Jésus, au verset 23, est les prémices de ceux qui sont décédés. Ce terme de prémices désigne précisément le début d'une récolte, les premières tiges qui poussent. Dans l'Ancien Testament, lorsque démarrait la saison des récoltes, il y avait une loi qui imposait aux Israélites de cueillir une première gerbe, qui était appelée prémisse de la moisson. Et ils devaient la présenter au sacrificateur, qui devait ensuite dédier cette gerbe à Dieu, pas n'importe quel jour de la semaine, mais le lendemain du sabbat. C'était une façon de reconnaître que toute une récolte allait suivre, et que celle-ci, finalement, appartenait à Dieu. Alors, de façon symbolique, emblématique, on dédiait à Dieu la première gerbe, sachant que tout le reste allait venir, et que tout le reste appartenait en fin de compte à Dieu. Et Paul utilise cette métaphore ici pour parler de la résurrection des morts. Il dit que Jésus, qui est lui aussi ressuscité le lendemain du sabbat, le premier jour de la semaine, lui, Jésus représente cette première gerbe qui est dédiée à Dieu et qui annonce une grande récolte à venir. Autrement dit, nous savons que les morts ressusciteront parce que Jésus le premier est ressuscité. La résurrection des morts ne va pas de soi, mais elle coule de source. Et Jésus, donc, non seulement règle notre problème fondamental, c'était mon premier point, mais en plus, deuxièmement, il nous restaure à notre condition d'origine, celle du jardin d'Éden, en nous libérant de la tyrannie de la mort, qui est la conséquence du péché. Cela ne veut pas dire que les chrétiens ne vont pas mourir. Cela veut dire que la mort n'a plus aucune puissance sur ceux qui sont en Jésus, parce que Dieu nous destine à ressusciter avec un corps cette fois incorruptible en vue de la vie éternelle en sa présence. Si nous sommes profondément convaincus de cela sur la base des promesses de Dieu, parce que Dieu nous l'atteste et parce qu'il a réalisé quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire pour nous l'attester, si on en est profondément convaincus, quelle puissance la mort a-t-elle sur nous? Que lui reste-t-il comme puissance sur nous? En Jésus, nous sommes dédiés à Dieu, parce que Jésus nous représente étant les prémices de la moisson. En Jésus, nous sommes dédiés à Dieu. Ce qui nous amène au dernier point. La foi chrétienne, c'est donc pas une commodité, une simple commodité pour le croyant, c'est toute la vie du croyant. Troisièmement, parce qu'en Jésus, non seulement Dieu règle notre problème fondamental, non seulement il restaure notre condition d'origine, mais enfin il rétablit notre utilité éternelle. Il rétablit notre utilité éternelle. Dans le texte ici, Paul, l'auteur, pointe vers un jour en particulier, le jour, dit-il, de l'avènement de Jésus. Quand Paul utilise cette expression ici, en tout cas, il veut dire le jour où Jésus reviendra sur terre pour mettre un terme à l'histoire et pour inaugurer les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est-à-dire une création entièrement renouvelée, purgée de tout mal, purgée de toute injustice. Et Paul dit dans ce passage que ce jour marquera la fin de tout régime autre que celui de Jésus-Christ. Toute puissance, tout pouvoir, toute autorité, tout règne, tout gouvernement seront définitivement abolis, de sorte qu'il ne restera éternellement qu'un seul royaume, celui de Dieu, qu'un seul roi, Jésus-Christ, auquel l'univers tout entier sera manifestement soumis. Pour l'instant, il est déjà soumis, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Mais le jour vient où l'univers sera manifestement, clairement, aux yeux de tous, soumis à son roi Jésus-Christ. La mort ne sera plus, la création glorifiera parfaitement son Créateur, et Dieu le Fils lui-même demeurera volontairement soumis à Dieu le Père dans une relation parfaite de soumission et d'amour entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la création, les croyants. Toutes choses demeureront éternellement à leur juste place vis-à-vis de Dieu. C'est ce que Paul veut dire en conclusion du passage qu'on a lu, où il dit que Dieu sera tout en tous. Toute chose sera à sa juste place vis-à-vis de Dieu, et cela pour l'éternité. Et l'être humain alors ? l'être humain là-dedans. Eh bien, l'être humain aussi glorifiera éternellement son Créateur. Mais les croyants et les non-croyants ne le glorifieront pas de la même manière. D'après la Bible, les non-croyants, qui auront vécu à la suite d'Adam dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, qui se seront désintéressés du pardon des péchés, qui pourtant est possible et gratuit, en Jésus, ceux-là recevront logiquement le juste châtiment de leur faute. Et ils glorifieront ainsi Dieu en témoignant éternellement de sa sainte colère et de sa puissance. Quant aux croyants, à ceux qui étaient d'eux-mêmes, comme les autres, spirituellement morts en Adam, mais qui, quant à eux, sont parvenus par la grâce de Dieu à la foi en Jésus, eux aussi glorifieront Dieu, mais eux, ils le glorifieront en témoignant éternellement de son incroyable miséricorde et de son amour sacrificiel manifesté en Jésus. Vous voyez, pour nous qui croyons, pour nous qui avons placé notre confiance en Jésus, la justice de Dieu a été satisfaite en Jésus sur la croix. On peut dire que Jésus a été en enfer à notre place, pour pas qu'on y aille. De sorte qu'au jour de son avènement, au lieu de subir le châtiment que nous méritons, nous recevrons la gloire du Fils éternel de Dieu, ce qui est, à mon sens, inimaginable. Mais c'est pourtant en ces termes que le dit l'Écriture. Et nous offrirons au Père un culte de reconnaissance pour l'éternité. Pas parce qu'on le mérite. Pas parce qu'on le mérite. Mais parce que Dieu nous a tant aimés. Alors si quelqu'un vous demande un jour, quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que vous lui répondrez? Le but de ma vie? Faire beaucoup d'argent, évidemment. Me marier, avoir des enfants, profiter un maximum de tout ce qui est agréable. Éviter autant que possible la souffrance. Devenir président de la République. Percer le mystère du Big Bang. Vraiment? Et si le but principal de la vie de l'homme, en fait, c'était plutôt de glorifier Dieu éternellement et de trouver en lui son bonheur éternel? Et si c'est ça, finalement, le but de la vie de l'homme? C'est en tout cas l'enseignement de la Bible. Dieu crée l'homme pour sa propre gloire. Dieu punit le péché pour sa propre gloire. Dieu sauve l'homme pour sa propre gloire. Vous n'existez que pour sa gloire. Et si vous vous confiez en Jésus pour le pardon de vos péchés, alors sa gloire devient votre bonheur. Sa gloire devient votre bonheur. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, dit l'auteur de l'Apocalypse. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, il s'agit des croyants, et d'entrer par les portes dans la ville. C'est-à-dire, heureux ceux qui sont pardonnés pour leurs péchés, n'est-ce pas, afin de pouvoir vivre éternellement dans la bienheureuse présence de Dieu. Alors la foi chrétienne, juste une commodité, juste un plus, une option, une chouette tradition, un glaçage sur le gâteau, mais qui décore le gâteau, c'est joli, c'est chouette, mais en plus le glaçage ça a un bon goût, mais qui ne pénètre pas au cœur. Je crois pas, hein. Imaginez que votre voiture tombe en panne, alors qu'elle est encore sous garantie. Et diagnostic du garagiste, un cylindre du moteur est cassé. Alors le garagiste vous dit, bon, pas de problème, hein, elle est sous garantie. Alors je vous remplace le moteur. Une semaine plus tard, vous allez récupérer votre voiture chez le garagiste. Vous mettez la clé dans le contact et rien ne se passe. Vous ouvrez le capot, pas de moteur. Tiens, tiens. Alors vous interpellez le garagiste qui vous répond, mais si, je vous ai mis un moteur tout neuf. D'ailleurs, il est encore dans son emballage, dans le coffre. Je vous l'ai mis dans le coffre pour que vous puissiez l'emmener chez vous. Absurde. Eh bien, pourtant, il a tenu parole. Hein. Il a remplacé le moteur. Il était sous garantie. Je vous mets un moteur tout neuf. Mais dans son emballage, dans le coffre, absurde. Une voiture en panne a non seulement besoin d'être réparée, la pièce a non seulement besoin d'être échangée, mais la voiture a aussi besoin ensuite d'être reconditionnée, remise en marche, réutilisée, n'est-ce pas? Et parfois, on pense que le salut que Dieu nous offre en Jésus est un peu comme ça. Un peu comme un moteur tout neuf, mais qu'on se trimballe dans le coffre, dans son emballage d'origine, qui ne sert finalement pas à grand-chose. Alors qu'en réalité, non seulement Dieu nous répare, il change ce qui est cassé, mais il nous reconditionne et il nous réutilise. Il nous réemploie. Il nous remet en marche pour sa gloire. Non seulement il règle notre problème fondamental, n'est-ce pas? C'était mon premier point, mais ensuite il restaure notre condition d'origine. Et enfin, il rétablit notre utilité éternelle. Voilà à quoi ça sert la foi. Voilà ce que c'est la foi chrétienne. Voilà pourquoi la foi, ce n'est pas juste une simple commodité pour le croyant, mais c'est toute sa vie. Et voilà pourquoi la fête de Pâques, qui commémore la résurrection de Jésus, voilà pourquoi c'est la fête la plus importante du calendrier. Parce que la résurrection de Jésus, c'est l'attestation solennelle de tout ce que Dieu a réalisé pour nous et compte réaliser pour nous. Voilà aussi pourquoi la fête de Pâques est si détestée par les ennemis de l'Évangile, comme les Fémènes et comme le diable. Amen.